Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Goûts et de Luxe. Vous allez voir quelques tout petits changements pour cette saison, mais finalement, vous allez retrouver l'essentiel de votre émission. Vos rendez-vous habituels, les nouveautés, l'agenda, une chronique voyage, le meilleur du web. Et bien sûr, l'irremplaçable Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Directeur, en pleine forme.
Ça va bien les vacances?
Ouais. Alors, je recolle avec Paris.
Ah bah ça,
enfin, je suis tombé amoureux de la Corse. C'est pas original, mais quand même.
Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de Chantilly. Art et élégance Richard Mine, c'est le rendez-vous de ce week-end. Rendez-vous à la campagne, des voitures magnifiques, des concours d'élégance, un pique-nique, que dis-je encore, et puis des spécialistes, des experts, des fanas d'automobiles. Dans un instant, nous serons avec la maison de vente Bonhams, avec l'Aston Martin Owners Club. Vous allez voir, il y en aura sous le capot, et puis un collectionneur. Mais tout de suite, ce sont les nouveautés de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et avant de commencer comme traditionnellement avec notre table de la semaine, Emmanuel, si vous me le permettez, je voulais rendre un hommage à une grande dame de la couture et une grande féministe aussi d'ailleurs, écrivain par ailleurs. C'est Madame Sonia Riquel qui nous a quitté. Son enterrement avait lieu cette semaine, jeudi, à Paris. Et on a notamment diverses personnalités qui lui ont rendu hommage. C'était dans Goût de Luxe Paris cette semaine, comme Chantal Thomas ou Agnès B. Qu'est-ce qu'on retiendra d'elle finalement?
D'abord, comme vous dites, une femme couturière, alors c'était quelque chose qui existait, mais elle a été dans la grande lignée, dans la grande tradition. C'est quand même une fille de Chanel, quelque part, une parisienne accomplie. Alors, à titre personnel, puisqu'on parle de gastronomie, c'est quelqu'un qui était une vraie gourmande. D'ailleurs, elle avait dessiné, bien avant que ça soit la mode, le restaurant L'Obélix, qui était le restaurant annexe du Crillon. C'était l'une des premières, comme cela, à se dire, tiens, c'est aussi une touche à tout. Alors, bien sûr, la mode, toujours la mode, mais elle aimait aller mettre son grain de sel dans plein d'univers, et c'était une décoratrice d'intérieur, là encore, au moment où c'était pas la mode. Et puis, je pense aussi, c'est le génie d'une certaine filiation. C'est assez rare en mode. Elle a aussi une fille qui a bien accompagné la marque.
Ben voilà, Nathalie Riquel, en tout cas, on rend hommage à cette grande dame qui est Sonia Riquel. Et puis, on commence donc, on reprend nos bonnes habitudes pour le resto de la semaine. Et vous nous emmenez, alors là, dans un lieu des plus touristiques, Emmanuel.
Justement, mais ça change. Mais comme vous voulez, je voulais retrouver, renouer avec Paris en douceur, donc un vrai bistrot parisien. On est tellement parisien qu'on est Montmartre 3. Il y a trois choses qui m'ont manqué. Cette émission et donc nos téléspectateurs et auditeurs, vous, et puis la gastronomie. Donc, direction le bistrot de la galette. Comme son nom l'indique, on est du côté de la butte, du moulin de la galette. Alors, ces derniers temps, c'est un quartier qui est un peu moins touristique, c'est-à-dire que les adresses sont un peu moins attrape-gogo. On l'a vu avec des boutiques de bouche. C'est pas encore tout à fait le cas avec les restaurants, mais ça commence petit à petit. Celui qui orchestre ce restaurant s'appelle Gilles Marchal. J'en ai parlé au mois de mai dernier parce que justement, il avait ouvert.
Il fait la pâtisserie, du côté de la... plutôt.
C'est un pâtissier.
Il a ouvert.
Voilà, vous suivez bien, hein. La biscuiterie qu'il avait ouvert au mois de mai dernier, donc en hommage à tous les moulins de la galette. Il faut savoir que bien avant que Montmartre soit Montmartre, ou au pur moment de Montmartre, c'était un village. Et dans ce village, il y avait plein de moulins où on faisait des farines. Ces farines nourrissaient des Paris. Et donc, il avait eu l'idée de rendre hommage à la biscuiterie montmartroise. Et avec ce bistrot de la galette, eh bien, même esprit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un bistrot pur jus. Alors, on va dire que ça sent un peu l'artefact. Sauf qu'il est quand même allé chiner du mobilier vrai de vrai qui rappelle ce qu'était un estaminet Montmartre 3, du moins le fantasme qu'on en a. C'est plutôt réussi. Et puis dans l'assiette, eh bien on sent le pâtissier. Et là encore, il va jouer avec la galette. Il a sourcé des superbes farines, des farines d'Île-de-France et notamment des farines de seigle pour faire la moitié de sa carte autour de la galette. Galette sucrée, galette salée. Alors attention, hein, ce sont des galettes feuilletées. Et il y en a deux ou trois qui sont fourrées. Alors soit sucrée, salée, je l'ai dit. Il y en a une qui est très sympathique parce que c'est un peu la galette grande. Genre, hein, avec des riz de veau à la crème, dès que l'automne va s'y mettre,
c'est ça, parce que pour
il y a aussi une galette végétarienne. Pour le reste, il est dans les grands classiques du comptoir, la cuisine de comptoir parisienne. Le croque-monsieur, superbement revisité.
Le bistrot de la galette, ça s'appelle, et c'est Gilles Marchal, c'est Sang de Terre, rue Le Pic, dans le 18e arrondissement de Paris. La grande nouveauté du côté de la parfumerie en cette rentrée, vous l'avez sans doute vu, c'est Louis Vuitton qui sort enfin, devrait-on dire, ses parfums. Cette parfum pour femmes réalisé par le maître parfumeur Jacques Cavalier-Beltru. Il avait été engagée en 2012. Ils ont eu quelques petits retards à l'allumage sur le parfum, mais ça y est, ils ont voulu faire les choses en grand. Donc ils sortent carrément une collection 7 d'un coup, de Rose des Vents à Mille Feux, en passant par Dans la peau et Turbulence. Ça s'accompagne de l'ouverture de l'atelier, on l'avait annoncé fin juin, Les Fontaines Parfumées à Grasse, et le grand retour en
Parce
Grasse.
Que c'est un parfumeur qui est installé à Grasse. Hein.
Exactement. Et donc pour faire monter, pour utiliser un petit peu les codes de la parfumerie de niche, eh bien ils lancent ça uniquement pour l'instant dans des pop-up stores et des lieux bien choisis à l'international. Et à Paris, c'est au Printemps Haussmann et au Bon Marché et Rive Gauche. Allez, je vous le disais.
Une distribution très sélective.
Très sélective, bien entendu. Oui. Allez, je vous le disais, on retrouve nos bonnes habitudes. Et donc tout de suite, c'est Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Et nous sommes ravis de retrouver Sandy Prenois, tout bronzé. Bonjour Sandy, comment ça va?
Ça va nickel. Depuis les eaux bleues de la Méditerranée, j'ai vu les côtes, je suis revenue vers vous. Je suis ravie de vous retrouver.
Et vous êtes remise devant l'écran, alors ça c'est fort sympathique.
Oh là!
C'est pour montrer les épaules bronzées ça. Bah alors, ouais. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Chanel?
Alors du côté de chez Chanel, d'abord effectivement il y a eu du nouveau. Chanel qui pendant les vacances a raccroché, enfin n'a jamais lâché d'ailleurs avec ses followers, et a partagé des photos de stars en vacances. Alors on a pu voir Lily Rose Depp avec sa maman Vanessa Paradis au bord de la plage sur un coucher de soleil, voyons un arc-en-ciel. On a vu aussi Pharrell Williams devant des fleurs d'été. On a vu pas mal de stars comme ça dans les avions. Ça permettait à la marque évidemment de laisser le luxe on the web pendant les vacances. À la rentrée, on continue d'avoir un petit peu ce jeu-là sur leurs réseaux sociaux avec un gros message spécial qui fout carrément les boules à la rentrée. C'est je le dis franchement, c'est Jacques Mus qui continue de fanfaronner sur son voilier en prenant des selfies, son voilier, tout ça entre Cassis et Marseille.
Vous êtes jaloux,
franchement,
c'est
en septembre,
tout.
C'est moyen le mec. Hein.
Bon, alors, on va commencer à bosser, nous, dur,
ouais,
c'est la rentrée.
Ouais.
Alors, par exemple, du côté de Pinterest.
Pinterest, alors là encore du nouveau, des vidéos sponsorisées, c'est une première. En fait, il y a une étude qui a été faite qui montre que 55% des internautes qui vont sur ce réseau social, ils vont pour acheter les produits qu'ils découvrent. C'est pas le cas sur les autres réseaux sociaux, le chiffre c'est 12%. Il y en a quand même des achats qui sont faits. Là, ils ont vu ça, donc évidemment, ils en ont profité. Il y a 5 marques pour le moment qui ont lancé ces vidéos sponsorisées. J'en cite 2. Bar Minerals, qui est connu pour ses produits de beauté minéraux, à base de minéraux. Et puis Kate Spade New York, les sacs, les accessoires de luxe. Il y en a d'autres qui vont venir, évidemment. Et puis, donc ça devient commercial.
J'en connais aucune des deux marques. Je pense
vous connaissez pas Kate Spade New York?
Mais
vous êtes prête à
vous connaissez Mistral
la
Galette?
Allez au BHV.
C'est ça, bah
mais vous n'êtes pas tellement connecté en fait. Heureusement, Sandy est là toutes les semaines.
Je sais pas si c'est un regret.
Et chez Michael Kors alors?
Michael Kors, alors lui, il fait le See Now Buy Now. Gros, vous savez que ça, c'est une grosse polémique aux États-Unis, en France, etc. Il y a les pour et il y a les contre. Avant de parler de ça, Michael Kors, donc, qui nous permet grâce au hashtag InstaKors de visionner les produits avant les défilés par moment, des fois pendant ou juste après, et d'acheter tout de suite.
Directement.
C'est l'instantanéité de la mode actuellement. Il y en a beaucoup qui sont contre. Les grands, hein, Chanel, Hermès, tout ça, ils sont évidemment...
vent debout.
Voilà, vent debout. Et puis, il y a aussi tous ceux qui sont pour. Là, il y a essentiellement des Américains. Michael Kors en fait partie. C'est sur hashtag InstaKors.
Et ben voilà, hashtag Sandy Prenois.
Ouais.
Merci beaucoup à vous, Sandy, pour ce nouveau web de luxe de rentrée. Allez, un hôtel, Emmanuel.
C'est l'hôtel dont on va beaucoup parler. Alors, on va parler de beaucoup d'hôtels, bien évidemment, parce que ça va être la grande saison des palaces. On attend en 2016-2017 le relance du Crillon, du Lutetia. Celui-ci, tout nouveau, s'appelle Le Roc, installé rue Saint-Roch, dans le quartier Saint-Honoré. Alors, il est vraiment dans l'esprit des chics on the corner, c'est-à-dire chic au coin de la rue, sauf que le coin de la rue, c'est la rue Saint-Honoré, donc on est vraiment dans le quartier des éminences du luxe parisien. Pour la première fois, la décoration, pour la première fois dans un hôtel, Sarah Lavoine.
Oui, parce que Sarah Lavoine, elle a déjà fait beaucoup de restaurants.
Oui, notamment. Mais c'est notamment les restaurants du côté de l'Étoile, avec, j'ai oublié le nom du restaurant.
Benjamin Patou.
Ouais, voilà, avec Benjamin Patou. Je suis pas fan du restaurant. ça n'explique pas ça, mais quoi que. Et là, donc c'est la première fois qu'elle s'est installée à un hôtel. Alors c'est plutôt réussi, parce que c'est un quartier qu'elle pratique. Elle y vit, elle y a toujours vécu, donc elle le connaît pertinemment. Hôtel, façade très sobre, presque janséniste. Quand on entre, on est vraiment dans un autre soi, dans une résidence secondaire parisienne. Vraiment un joli travail sur le sourcing des produits avec lesquels elle travaillait. C'est-à-dire que toutes les couleurs, les peintures viennent de la marque Ressources. Et quand on sait la qualité de Ressources, c'est pas rien. Elle a chiné les produits immobiliers, c'est soit les siens, soit ceux de chez Cassina. Vous voyez, beaucoup de travail très très inspiré. Et c'est un hôtel qui a une vraie dimension bien-être. Et ça s'incarne véritablement par un spa, par une piscine, et pas une petite piscine. Et puis alors 32 chambres, et puis 4 suites bien-être. C'est-à-dire qu'il y a un hammam privé. Puis alors il y a la suite Saint-Roch, 47 mètres carrés. Un bac privé, terrasse privative avec vue sur Paris. Et un restaurant à venir bientôt, où l'on retrouve, j'allais dire, un chef du quartier, mais pas n'importe quel quartier encore une fois, c'est Arnaud Faye. C'est le second de Michel Roth lorsqu'il était le chef du Ritz, donc tout à côté. Et puis il a accompagné Thierry Marx dans son aventure du mandarin oriental. Cette fois-ci, il est seul aux commandes. L'adresse restaurant est aussi attendue. Et là, on est donc au 28 de la rue Saint-Roch, Paris 1er.
Pour l'hôtel Le Roc. Allez, la petite moisson de nouvelles boutiques pour hommes qui viennent d'ouvrir pour hommes et pour femmes. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour les hommes, notamment. La première, c'est un concept store barbier pour hommes. Bonhomme Barbershop, Grooming for Men, en bon français. On est du côté de la rue Saint-Denis, 122 rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement de Paris.
La rue Saint-Denis qui nous crie qu'il devient une quartier de plus en plus chic.
Donc là, c'est sur 3 niveaux, 200 mètres carrés. Il faudrait aller y faire un tour, Emmanuel. Ils vous font le coiffage, la barbe, ils vous font tout.
C'est tout, c'est tout à côté.
Les manucures, sans oublier l'espace détente avec son billard, petite ambiance musicale. Il y a la boutique, bien sûr, où vous retrouvez plusieurs produits comme Baxter of California.
Ça veut dire pas chez le coiffeur, Emmanuel.
Etc. Donc voilà pour l'adresse. Sur les Champs-Élysées, si c'est plutôt votre quartier, une marque danoise lifestyle qui fait de la maroquinerie, des montres, des choses comme ça. Pour le coup, c'est pour hommes et femmes. Ça s'appelle Skagen. Je ne sais pas si je prononce bien Skagen. En tout cas, c'est un nouveau rendez-vous. Ils sont au cœur de la maison danoise, sur les Champs-Élysées. Donc le temps est dit. Très design. Voilà pour cette nouvelle marque. Et puis mon petit chouchou, le concept store Bienvenue qui vient d'ouvrir 7 rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement de Paris. Il y avait déjà Cinabre juste à côté. Et là, c'est un concept store mélange d'art, de culture, de design, high-tech. Il y a des accessoires de mode, déco, maison, librairie, papeterie, etc. Des gourmandises. Et il y a quelques marques en exclusivité.
Suédoise.
Et ben voilà. Et par exemple, les petites doudounes MS, ça je connaissais pas, qu'on referme, vous savez, un petit peu comme les fameux caouets. Voilà, mais en forme doudoune. Il y a les éditions 100 pages avec les questionnaires 10 de Max Frisch, édité à 25 exemplaires. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, allez chiner parce que ce que j'ai dit n'est sûrement déjà plus d'actualité dans ce petit nouveau concept store Bienvenue et bien achalandé avec plein de nouvelles choses. Et peut-être que vous y découvrirez, je ne sais pas s'ils ont prévu de le prendre, ce nouveau petit coffret. En attendant, on trouve ce nouveau petit coffret dans les boutiques Pierre Marcolini. Pierre Marcolini, haute chocolaterie. Ouais, ça vous fait penser à quoi? En fait, vous avez vu, c'est un petit téléviseur des années 50. Avec un petit pop-up, un petit décor en pop-up. C'est une collab avec Ami Alexandre Mattiussi, le créateur de mode. C'est un petit décor parisien, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez les chocolats.
Ah oui, je savais bien quand même.
Bah, il y a quand même les chocolats, oui. Quand vous l'ouvrez, pour l'instant, je vous montre l'objet fermé. Mais après, vous
dégustez. Ça commence, c'est pas dingue, il y a papa qui a aucune raison, mais elle a déjà attaqué le chocolat.
Mais c'est la rentrée, il faut se faire du bien. Oui. Avec la nouvelle barre de chocolat caramel vanillé, c'est la meilleure de Pierre Marcolini. Voilà, un peu de douceur quand même.
J'ai compris.
Merci infiniment, Sandy Prosnois, la semaine prochaine. Allez, on va y aller, direction Chantilly, et Chantilly Art et Élégance. Et ce week-end, ce dimanche, donc à Chantilly, comme son nom l'indique, ce rendez-vous de l'automobile. On vous emmène dans les coulisses tout de suite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et des goûts de luxe donc à Chantilly, cette semaine, Chantilly, Art et Élégance, Richard Mille, 3e édition, 800 voitures. Ça, ce sont les personnes que vous allez retrouver sur place, mais il y a tous les curieux qui viennent voir. Et en tout cas, parmi ces 800 automobiles, une centaine d'entre elles participent au concours d'État, 21 catégories. On va reparler de tout ça parce que vous allez voir, c'est très spécifique. Un milieu que l'on va découvrir avec nos invités. Nous sommes en compagnie de Philippe Cantor, bonjour.
Bonsoir.
Spécialiste automobile de collection au sein de la maison de vente Bonhomme, c'est justement vous vendez de splendides automobiles durant ce rendez-vous, mais pas seulement, bien évidemment. Bruno Bandiès, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes marchand d'automobiles, mais aussi, et on va en parler davantage aujourd'hui, vous êtes aussi collectionneur.
Absolument.
Et notamment fan de Bugatti, et vous nous raconterez ça dans un instant. Et puis avec nous également Philippe Teur, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Aston Martin Owners Club France.
C'est exact.
Combien il y a de membres de ce club français?
Vous savez, on a commencé avec 5 personnes et maintenant on a entre 80 et 85 membres.
Ah, quand même, donc tous français.
En 5 ans, on a.
Chantilly, art et élégance. Il se dit que c'est l'un des plus beaux rendez-vous. D'ailleurs, ils ont eu un prix l'an dernier, l'un des plus beaux rendez-vous de la voiture ancienne. Je vais me tourner vers vous, Philippe Cantor. Qu'est-ce qui fait la renommée et en quoi, selon vous, c'est vraiment désormais un événement de l'automobile de collection?
Comment ça réussit si vite, comme disait Karine, troisième édition et en si peu de temps, c'est déjà installé, j'allais dire, dans le...
Disons, pour moi, c'est facile parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec Patrick Petter.
De Peter Otto, organisateur.
Voilà, exactement, à l'époque du Mans Classique. Quand il a fait les premières éditions, j'étais chez Christie, j'ai fait deux ventes avec lui et j'ai vu son professionnalisme tout de suite. Et il m'avait été comme juge la première année de Chantilly et j'étais fort impressionné. J'étais impressionné par le courage qu'il a eu de faire ça, quand même dans le nord de l'Europe, du lieu choisi qui est fantastique. Évidemment, pour le temps, c'est pas toujours garanti, mais un lieu comme ça, c'est extrêmement difficile à trouver. Aux États-Unis, ils ont des concours exceptionnels, mais c'est souvent sur des golfs, dans des hôtels de prestige. Mais en Chantilly, même pour le film Moonraker et le James Bond, ils devaient le déplacer. Alors, c'est vraiment ça qui m'a séduit, plus toute l'équipe de Peter Otto. Alors, j'ai dit, voilà, il faut faire une vente, là.
Parce qu'on rappelle, Bonham, ce n'est pas une maison française. Et donc, c'est vrai que vous y connaissez en la matière.
On est une maison tout à fait internationale. On va de Hong Kong jusqu'aux deux côtes des États-Unis, l'Angleterre.
Quand même plutôt
anglo-saxon. Et moi, je vais de Calais jusqu'à Dubaï. Alors,
d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît, Bruno Vandiès, dans ce rendez-vous?
Oh, beaucoup de choses. L'organisation parfaite, magistrale.
Donc Peter Otto, ça fait deux médailles.
L'écrin, mais oui, l'écrin.
Chantilly, deux médailles.
Et la qualité des voitures sélectionnées.
Ah oui.
Parce qu'il y a un comité de sélection. Un an avant, on recherche des voitures. Il y a les juges de classe décident si les voitures sont acceptées ou pas. Il y a une présélection. Et on joue la qualité.
La grande qualité. Qui sont ces juges?
Oh, ils peuvent être d'origines diverses, des collectionneurs, des historiens.
Parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que pour le concours d'État, quand on regarde la liste du jury, il y a beaucoup, beaucoup de monde et de profils variés. Emmanuel.
Alors justement, Chantilly, c'est d'abord un concours d'élégance avec des remises de prix. Alors plusieurs catégories, on ne va peut-être pas le rentrer dans le détail de tous les concours qui ont lieu durant ce week-end. C'est peut-être un peu complexe, on n'aurait pas dû m'expliquer, mais vous l'avez dit, il y a un comité de sélection. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'une voiture dans sa catégorie, a le droit de concourir, de présenter, de défiler comme ça durant ce week-end? Et quels sont les éléments qui l'excluent immédiatement?
Je pense surtout qu'il s'agit de l'origine de la voiture, de son histoire. Il ne faut pas que ce soit un clone, une copie. Donc on vérifie avant tout l'histoire.
Il faut une traçabilité.
La qualité de la voiture, une traçabilité, la restauration. Voilà, il ne faut pas que ce soit une fausse voiture. Il faut que ce soit une vraie voiture.
C'est-à-dire une voiture qui a la carrosserie, l'esthétique, mais que le châssis ne serait pas d'origine, par exemple, elle peut être exclue.
Je pense qu'elle ne serait pas acceptée. Sauf dérogation, quelquefois. Dans certains cas, il y a eu des reconstitutions, il y a eu des pièces manquantes, mais bon.
Ouais, mais c'était des voitures.
C'est un peu complexe, mais le comité de sélection s'en occupe. Il y a les stylistes aussi automobiles dont j'ai oublié de parler.
Ah ben oui, tout ça joue bien sûr l'esthétique, la mécanique. Philippe Torl, pourquoi c'est important pour l'Aston Martin Honors Club France d'être présent?
Parce que je pense que Chantilly représente pour la France une fenêtre ouverte sur le monde. Et depuis longtemps, il n'y a pas eu de concours d'élégance en France et c'était quelque chose qui manquait à ce pays. Et quand on m'avait parlé de ça il y a 2 ans et demi, lors de Rétromobile, j'ai rencontré les gens de Peter Otto qui m'ont dit, on va commencer un concours d'élégance à partir de septembre, c'était en 2014. On aimerait bien que le club Aston Martin soit présent. Et moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que de ne pas être présent quand on représente un club comme Aston Martin, il n'y a pas que nous, mais je dis, on est parmi les marques que les gens viennent voir et qui font un peu rêver aussi. Et c'est tout un autre honneur qu'on ait sollicité pas mal de clubs et d'événements. Mais je pense que Chantilly, parce que moi je dis, puisque ça manque en France, on a Villa d'Ost, on a Pebble Beach, pourquoi pas que, pas maintenant, mais plus tard, Chantilly deviendra le nouveau,
nouveau
place
Beach.
To be en Europe pour les grandes collections. C'est en train de se faire. Et je pense que pour un club comme le nôtre, ça serait dommage de ne pas être présent, parce que, franchement, je vous dis une chose, que vous aimez ou vous n'aimez pas les voitures, que vous êtes fan de voitures de collection ou pas, vous venez à Chantilly, vous allez passer une journée féerique.
C'est autre chose, c'est le prix de Diane de l'automobile.
C'est exactement ça. Et vous allez être ébahi, ébloui par la beauté des objets. Mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a des voyages sur les canaux, il y a des voyages en dirigeable. Vous pouvez visiter le château, tout est ouvert. Donc c'est une journée, le château vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Et vous passez une très belle journée. Donc je dis à tout le monde, venez parce que c'est vraiment un événement à ne pas manquer.
Vous déjà venez de répondre en partie à la question que je vais vous poser, mais vous l'avez dit, vous avez employé le mot de concours d'élégance. Alors il n'y en avait plus en France, qui avait aussi sa tradition entre deux guerres. Hein, d'ailleurs, si on regarde les anciens magazines automobiles ou les anciens magazines de mode, on voit que c'était véritablement quelque chose qui faisait partie de la culture, si ce n'est française, du moins parisienne. Puis c'était parti complètement des études, là où l'Angleterre continuait de cultiver le genre à la manière des États-Unis. Vous qui avez accompagné, bon c'est la troisième édition, mais vous avez déjà vécu les deux précédentes, finalement ce qui peut paraître désuet n'est pas du tout, paraît-il, quand on a vécu ces instants à Chantilly. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pour, j'allais dire, installer ce son concours d'élégance dans sa contemporanéité? Comment ils l'ont rendu un peu sympathique, moderne, vivant?
Ce qu'on a en France, et là, ce qui est important de savoir, moi je suis d'origine britannique, donc le sais. Ah oui, ça s'entend. Ce qu'on a en France, c'est tout le savoir-vivre en France, toute la beauté de la France. Vous rendez compte, le château de Chantilly, comment c'est joli, comment c'est, ça fait rêver. C'était même dans un James Bond.
Ah, mais c'est vrai, d'habitude,
ça vous a marqué les Anglais, voilà, ça. Voilà. Que James Bond soit allé à Chantilly.
Avec Patrick McNee et Grace Jones.
Mais d'habitude, donc, on parle plutôt chevaux, parce que c'est aussi la patrie du cheval à Chantilly.
Et Roger Moore. Oui, tout à fait. Donc,
regardez bien leur garage. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, il y a des jolies voitures.
Évidemment, ça attire les touristes. Ça attire du monde, ça attire les Français. Mais quand vous voyez la beauté des lieux, le temps qu'on a eu les deux pour les deux premières éditions, ce week-end aussi, enfin, c'est pas mal. C'est un lieu de rêve. C'est un lieu pour oublier tout ce qui est autour de nous dans la vraie vie, pour vivre quelques heures dans un cadre magnifique. Faut y aller pour le comprendre, mais j'essaie d'expliquer ce qu'on
mais
peut.
C'est vrai, mais vous avez entièrement raison.
Bruno Vendiès, vous de la même manière, même question, même punition, même motif. Comment, à votre sens, ils ont réussi, Chantilly, Peter Otto, à faire de ces concours d'élégance, finalement, quelque chose qui parle à l'époque, à 2016, et que finalement, c'est
français,
pas du tout désuet, bien incarné. C'est la scénographie, c'est les voitures, parce qu'il faut oser quand même, non seulement de mettre des belles mécaniques qui défilent, mais je rappelle qu'il y a un concours d'élégance, c'est aussi des jolis couturiers, des jolis chapeaux. Des femmes qui sont associées à un modèle automobile.
D'abord parce que c'est organisé par de grands professionnels.
C'est vrai qu'on rappelle, Peter Otto, c'est vraiment ceux qui ont organisé le
monde. C'est vraiment une grande organisation, c'est énorme. Et ce sont des professionnels. C'est comme le salon Rétrobabile, ce sont des professionnels. Donc ça, ce sont des années d'études, des années d'investissement avant d'en sortir. Mon voisin parlait de savoir-vivre français, moi je parle de savoir-faire aussi. Tant pour l'organisation, puisque vous me demandez, que si pour l'automobile française, les voitures qui seront présentées là-bas.
On va voir ça.
Au niveau de la carrosserie, par exemple, des carrosseries.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on voit, vous qui êtes aussi collectionneur, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'anglo-saxons? On disait quand même, c'est cet esprit-là au départ. Ou est-ce qu'on retrouve des collectionneurs, des experts, des fanatiques internes qui viennent du monde entier, ou plutôt des anglo-saxons? Comment ça se répartit?
Tout le monde sera là.
Tout le monde.
Nos amis américains.
Il y a beaucoup de Français collectionneurs de
russes.
Voitures.
Il y a beaucoup de Français collectionneurs de voitures, bien sûr. Mais il y a des collectionneurs de voitures partout dans le monde.
Ouais.
Presque partout, évidemment.
Vous savez qu'il y a des marques françaises qui font rêver, comme Delahaye, comme Hotchkiss, comme même Renault, Citroën, certains modèles qui sont extrêmement chers et recherchés, qu'on trouve en exposition. Donc, et je dirais que ça met en valeur la France et ça met en valeur les marques françaises qui sont peut-être pour les collectionneurs qui viennent d'ailleurs dans le monde moins connues.
Ah oui.
Mais on peut tout voir sur place à Chantilly. Donc, pour une raison, cette raison-là aussi, il faut venir.
Et vous le disiez, sur la carrosserie française, alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à l'époque, c'était vraiment sa vertu. Et d'ailleurs, c'était presque, j'allais dire, un terroir parisien, puisque tous les grands carrossiers, c'était dans les environs de Paris.
Autour
c'est Courbevoie,
Paris.
C'est Asnières, c'est Colombes. Il y avait vraiment un savoir-faire. Et c'est vrai que pour avoir quand même assisté à pas mal de rétromobiles, là, on a aussi oublié que l'automobile française a été aussi très haut de gamme et en termes de technologie, on parle d'une maison comme Citroën, je pense qu'elle a fait évoluer, beaucoup évoluer la mécanique, là où certaines marques italiennes n'existaient même pas à l'époque. C'était pas né.
Philippe Cantor, justement, est-ce qu'il y a des automobiles françaises dans la vente Bonhams de ce week-end à Chantilly?
des auto françaises,
ah, ça va être dur, ça
des autos qui sont immatriculées en France, qui appartiennent aux Français, oui, ça de toute façon.
Mais de marques françaises,
alors.
Ça
m'a pas marqué dans ce catalogue-ci, mais on va sûrement en trouver une.
Allez, on va teaser parce qu'on va faire la petite pause. On rappelle, hein, d'abord et surtout, vous l'avez dit.
Vous avez une marquette par
là.
Vous avez épluché le catalogue. Dans les marques françaises, souvent, même à l'étranger, on voit les Citroën DS qui prennent beaucoup de valeur, les Citroën SM qui prennent beaucoup de valeur, les Facel Vega qui sont très recherchés, qui étaient très populaires aux États-Unis. Toutes ces marques qui ont fait rêver la France. Quand vous avez vu la vente l'année dernière de toutes ces voitures qui étaient à moitié en ruine à Rétromobile, qui étaient vendues partout dans le monde, ça veut dire qu'il y a une envie pour les marques françaises qui font rêver.
Et c'est le président de l'Aston Martin Honors Club qui vous dit ça. Donc ils sont très fair-play dans le milieu de l'automobile. Allez, on fait une petite pause et justement, on va rentrer plus avant, juste après la pause, avec vous, Philippe Cantor, dans cette vente Bonhams et puis dans les coulisses de vos collections et du défilé. D'abord, une petite pause sur BFM Business.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et les plus belles carrosseries sont aujourd'hui dans Goût de Luxe. Nous sommes à Chantilly, Art et Élégance, Richard Mille, le rendez-vous de l'automobile et de l'élégance. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Cantor, spécialiste automobile de collection au sein de la maison de vente Bonhams, de Bruno Vendiès, collectionneur, et de Philippe Teur, président de l'Aston Martin Honors Club de France. Alors on s'est arrêté juste avant la petite pause avec vous, Philippe Cantor, sur la fameuse vente Bonhams. Oui, il y aura une ou deux marques françaises, mais surtout, il y a un petit bijou en une de ce catalogue et de cette vente. Comment, avant de... Voilà, on va laisser mûrir un petit peu les choses, mais comment on construit une vente? Parce que vous en faites plusieurs par an, notamment au Grand Palais. Vous avez des ventes de référence sur les automobiles anciennes. Mais à Chantilly, comment vous construisez le catalogue? Est-ce qu'il est construit différemment?
Disons que Chantilly et le Grand Palais sont différents dans le sens où à Chantilly, j'ai une fenêtre de 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est une vente roulante. Mm-hmm. Alors on peut pas avoir trop d'autos. Les autos défilent devant le public. Alors qu'au Grand Palais, c'est 13 000 mètres carrés et c'est quelque chose de assez difficile à remplir et ça dure beaucoup plus longtemps. Alors c'est deux approches différentes. C'est deux lieux magnifiques, magiques, surtout avec l'histoire de l'automobile au Grand Palais. Mais c'est deux approches très différentes. Ici, c'est une vente avec vraiment un esprit curateur, avec une limite de temps. Au Grand Palais, c'est plus de temps au niveau de la préparation de la vente. C'est 6 mois, mais c'est aussi beaucoup plus d'autos. C'est 120, 130 autos.
Et là, il y en a combien?
Il y en a un peu moins que 30. Il y en a 28 cette année.
28 bijoux. Alors,
une ligne éditoriale, une ligne de suite pour choisir, définir ces 28 modèles qui vont être mis en vente. Ou pas du tout,
c'est
la rareté.
C'est, je pense, chacune des autos est vraiment choisie pour une raison particulière. C'est pas uniquement une Porsche 911 Turbo. Non, c'est une 3 litres 6. C'est le moteur le plus recherché. C'est pas une Renault 5 normale, c'est une Renault 5 Turbo 2. Chaque chose, chaque lot a été vraiment sélectionné pour être le mieux et dans ce contexte aussi, l'exemplaire en meilleur état avec le meilleur historique, avec tous les atouts possibles, puisque justement il faut la meilleure qualité. Mais en fait, vraiment la star de notre vente cette année, c'est cette Mercedes. Alors, qui est une auto tout à fait exceptionnelle.
Sublime. Ça date de quand, ça?
Ça date de 1935. C'est l'auto du Salon de Berlin de 1935. C'est une Mercedes 500K Special Roadster. C'est une auto qui a été réservée vraiment à l'élite. Il y a eu 29 de produites. Elle a été achetée par un monsieur qui était de la plus ancienne famille industrielle d'Allemagne, 16e siècle, qui faisait des choses très simples au début, des boutons, et après ça des fermetures à clé, des trucs comme ça. Il a acheté cette voiture en 1935, et il y a des photos archives d'ailleurs dans le catalogue et sur Internet qu'on voit avec sa famille. Et puis l'auto, elle a disparu après la guerre.
Ah oui.
Et on l'a retrouvée aux États-Unis. Il y a eu plusieurs propriétaires. Et la famille du premier propriétaire réussit à récupérer l'auto il y a 4-5 ans. Et maintenant, c'est le petit-fils qui vend la voiture de son grand-père.
Alors, vous l'avez dit, un 29 exemplaires simplement, je crois, produits à l'époque. Il en reste combien aujourd'hui, hormis celle-ci?
De cette première série, je dirais qu'il reste quand même deux tiers.
Puis alors, deuxième chose, vous le dites 1935, quel est son état aujourd'hui? Elle a quand même
traversé... Vous voyez, elle est sublime.
Sur l'image, elle a l'air sublime. Vous savez, je me méfie des images déjà. Mais elle... Très sincèrement, quand c'est une voiture qui a quand même vécu, même si j'imagine on en a pris soin, elle est passée de main en main à travers des familles qui étaient, si ce n'est respectueuses, du moins précieuses. Mais dans quel état elle est? Est-ce que justement, avec tout ce qu'on disait qui fait une grande automobile, c'est aussi que les pièces soient le plus souvent d'origine? Est-ce qu'on est vraiment dans le pur originel de la Mercedes?
Ici, il y a une chose qui n'est pas d'origine, c'est les couleurs.
Oui, ce qui s'est étonné, alors je peux me tromper,
c'est
je suis pas un expert,
rouge, hein.
C'est un rouge.
C'est un beau rouge, ouais.
C'est un rouge qu'on a peut-être pas l'habitude
ça
de voir,
très,
ni dans l'idée de nos Mercedes.
90. Mais au niveau carrosserie, châssis, moteur et tout composant majeur de la voiture, elle est tout à fait d'origine. Et d'ailleurs, elle a un dossier de chez Mercedes classique qui pèse 2 tonnes. Je suis bien placé pour le savoir parce que je l'ai porté. Et je vous assure que c'est très impressionnant parce que il y a même encore le démarreur d'origine. C'est vraiment une auto qui a survécu grâce à des gens qui étaient passionnés, qui l'ont choyé. Sa couleur d'origine, c'est un vert gris métallisé. Elle a été repeinte.
C'est les Américains qui l'ont
dans les années 90. Les Américains l'ont repeinte. Mais voilà.
Allez, combien pour cette voiture?
5 à 7 millions d'euros.
Ok. Bruno, vous êtes sur les rangs,
vous êtes
Bruno
collectionneur, vendeur automobile. Quand vous voyez un modèle comme ça, c'est ce qu'on verra entre autres durant la vente, mais aussi durant tous ces week-ends à Chantilly. Ça vous fait quoi, vous? Parce que c'est vrai.
J'apprécie, mais c'est pas celle que je préfère.
Ah, dans, ouais, le catalogue?
Qu'est-ce que vous...
Ou dans celle qui vous défile? Bien sûr, non, mais c'est une grande voiture importante, ouais, etc. Mais ce n'est pas celle que je préfère.
C'est
si je devais m'en servir,
vous...
non, ça ne me conviendrait pas.
C'est quoi votre truc? C'est la Bugatti, c'est ça?
Alors oui, une petite Bugatti de place, sport, de 1928, dont on connaît l'histoire complète, qui était livrée neuve en Allemagne, qui est passée par le grand négociant bruxellois de Dobler en 1960.
Celle-là, vous l'avez repérée dans le catalogue, c'est ça?
Ah non, non, non.
Non, ça, c'est la vôtre.
Je l'amène à Chantilly dimanche.
Je vous la montrerai
dimanche.
Parfait. Mais comment on arrive à collectionner des voitures anciennes comme ça? Évidemment, c'est la passion, mais on l'a vu. Alors, elle ne coûte pas tout ce prix-là, mais comment on en vient à les collectionner?
Surtout que vous nous avez dit, en préparant l'émission, vous nous avez dit que vous avez commencé à collectionner les automobiles à l'âge de 15 ans. Vous n'aviez même pas le permis.
Par hasard, j'ai
pas la réponse.
C'est quoi le virus? Alors, je cherchais les motos anciennes.
Ouais.
Et un vieux mécanicien du nord de la France m'avait indiqué une BSA de l'armée anglaise, une moto. Je me suis rendu à Saint-Omer où j'ai, jeudi après-midi, au lieu de faire mes devoirs, j'ai cherché la moto, je n'ai jamais trouvé. Mais en cherchant la moto, j'ai trouvé une petite Peugeot de 1930, chez un maraîcher, derrière les cajots. Donc je l'ai achetée. Je l'ai ramené sans permis à 40 km chez mes parents, grands-parents. Et puis, c'est prescrit. Hein. Et puis voilà comment on devient maniaque, obsédé.
Alors aujourd'hui, vous êtes...
Elle ressemble à quoi, votre collection?
Vendeur automobile et collectionneur. Alors votre collection, ouais.
Alors j'ai fait de ma passion mon métier. J'ai eu beaucoup de chance. Mais je suis éclectique. J'ai une Roland Pilin du Mont Ventoux de 1908, de la course de côte du Mont Ventoux. J'ai l'Ariès de mon grand-père de 1914. J'ai une Bugatti de 1928. J'ai la chance d'avoir une BMW de 1938. Mais j'ai passé ma vie à rechercher ces voitures et à les restaurer, les remettre en état.
C'est ça, elles roulent toutes.
On arrivait là.
Parce que l'intérêt pour un collectionneur, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit à Chantilly, c'est ce que vous racontiez avec la vente Bonhomme, c'est qu'il faut que cette voiture roule.
Oui, mais certains, ce n'est pas un critère pour tout le monde. Certains collectionneurs entassent. Il n'a pas besoin que ça roule, ce n'est pas nécessaire. Ils veulent posséder l'objet, ils le mettent en place. On trouve quelquefois des voitures qui ont 40, 50 ans de poussière. Ou
c'est
de
dommage,
sacs
ça.
Posés sur les voitures.
Alors les votes, c'est pas vraiment le genre. Vous aimez les faire partager, parce que c'est aussi ça, la passion automobile,
voilà,
en vérité.
Sûr,
c'est la vertu de ces festivals d'élégance ou des salons comme automobile. C'est aussi d'offrir au grand public, de pouvoir les toucher, de les impressionner. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure, Philippe, c'est vrai qu'il faut y être allé une fois. C'est émouvant. On s'aperçoit que c'est une vraie culture automobile et que ça raconte beaucoup sur nos paysages, sur nos savoir-faire, sur nos techniques. C'est vrai que c'est toujours émouvant. Quand on a même parfois la chance de monter à l'intérieur, de faire un petit tour, c'est encore mieux. Alors quels sont les modèles que vous présentez, vous, à Chantilly, cette année?
Je présenterai cette Bugatti.
Cette fameuse Bugatti.
De type 37, c'est une 4 cylindres, 1500, 1928.
Vous la présentez, elle concourt?
Je fais le petit rallye le samedi, je me balade,
vous, ouais.
Et le dimanche, elle sera au concours.
Alors, quel concours? Il y a plusieurs concours.
Le concours d'État?
Quel concours d'État,
le concours d'État. Ne comptez pas sur moi pour l'élégance. On jugera la voiture.
C'est ça, il faut savoir s'effacer dans la vie.
Ce qui est intéressant, et ce que vous nous disiez hors micro, c'est que finalement, il y a de plus en plus de collectionneurs. Il y a toutes sortes de collectionneurs, vous disiez des collectionneurs internationaux, et même des femmes, il y a de plus en plus.
Absolument.
De femmes, hein, j'ai l'impression.
Et les grands événements organisés pour vous, mesdames, comme le rallye des princesses, entre autres, ou d'autres rallyes, où les femmes sont compétitrices, mécaniciens.
Rallye des princesses, orchestrée par Richard Mille en partie. On rappelle un Richard Mille qui est quand même le maître d'œuvre de ce concours d'élégance. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Richard Mille, c'est aussi de la mécanique, c'est plus de la mécanique horlogère. Et pour rappeler que sans ce bonhomme-là, il n'y aurait pas Chantilly.
On me dit souvent pourquoi vous aimez les voitures anciennes et pourquoi est-ce que les voitures anciennes attirent les gens. Et j'ai deux réponses à cela. La première, c'est que c'est l'histoire. C'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne. On voit ces voitures, ça correspond à une époque du temps de notre vie ou avant notre vie. Et deuxièmement, ça rappelle des souvenirs. Et souvent, qu'est-ce que les gens me disent ? Ils me disent « Ah, quand j'étais gamin, mon père, il avait ça. Ouais. » Ça me rappelle des souvenirs. Pas nécessairement un Aston, mais une Mini ou une autre Austin ou un Maurice.
Vous n'avez pas tort, regardez, là j'ouvre le catalogue, on en
mais
a déjà
pas
parlé.
Les voitures dans le catalogue.
Non, mais page 24-25, regardez comme l'automobile, on voit qu'on a vieilli, voilà. C'est, alors ça nous rend de la nostalgie, tout ce que vous voulez, mais moi voilà, je découvre la R5 Turbo 1984.
C'est pas la plus belle, hein.
Peut-être, mais on n'en voit plus sur les routes, on en voit moins, et je demeure persuadé quand je me retrouverai face à face avec ce modèle-là, qui l'eût cru, je me dirais, c'est émouvant, comme vous le dites, ça fera. Pincer la fibre un peu nostalgique.
En tout cas, chez l'Aston, l'Aston Martin Owners Club, Philippe Turl, vous nous le disiez tout à l'heure, en quelques années, vous avez déjà 80 membres.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté ma voiture il y a 10 ans. J'ai payé vraiment pas cher. J'ai payé 15 000 euros. C'était une voiture de 1970. Et tout le monde m'a déconseillé. On dit, on n'achète pas cette voiture. C'est une Aston Martin DBS, comme celle de Lord Brett Sinclair, dont amicalement vôtre. La mienne n'était pas orange, mais grise. J'ai acheté en Angleterre. Les gens me disent, n'achète pas cette voiture. Ce n'est pas une vraie Aston. Ce n'est pas une DB5 comme James Bond et ce n'est pas une Aston moderne. Je n'avais pas les moyens d'acheter les autres parce que c'était déjà assez cher. Et donc, j'ai pris cette voiture. En quelques années, la valeur a beaucoup grimpé. Donc maintenant, heureusement que je l'ai fait à l'époque, parce que je ne pouvais plus. Mais ça ne veut pas dire que ces voitures sont inabordables. Il faut savoir que si vous voulez acheter une Aston, pour ceux qui ont 20 à 30 000 euros à dépenser, vous pouvez toujours acheter une DB7, qui est une voiture qui est sortie dans les années 90 jusqu'aux années 2000, et qui reste abordable. C'est un peu comme une Jaguar XJS remodelée, mais c'est une vraie Aston, et ça vous ouvre la porte. C'est pas moins une Aston qu'une DB5, une DBS ou une autre. Donc, il y a les moyens en cours de rentrer dans le milieu de la voiture ancienne, la voiture de collection. Donc c'est pas que des voitures à 5-6 millions d'euros. Vous pouvez arriver, même avec les voitures des années 90, maintenant ça commence à être recherché, mais dans toutes les marques.
Mais à quoi ça sert de faire partie de votre club ?
Alors, pourquoi le club Aston ? Quand j'ai acheté la voiture, je cherchais un club en France pour sortir, pour rencontrer des gens.
C'est votre côté anglo-saxon.
Voilà, et donc il y avait
ils créent un club.
Ça ne bougeait pas. Donc finalement, j'ai appelé le siège en Grande-Bretagne. J'ai dit, mais est-ce que vous voulez que j'organise quelque chose ? Et ils m'ont dit, ah bah oui, volontiers, parce que depuis des années en France, rien ne bouge, personne ne fait rien. Si vous voulez organiser quelque chose, allons-y. Donc j'ai mis une annonce dans le magazine en disant, dimanche, dans un mois, nous allons sortir, nous allons au château de Thoiry, là où il y a
dans
un
les
zoo,
vitrines, voilà.
Et on va se voir sur le parking avant où il y a une manifestation de voitures anciennes une fois par mois. Et je dis, si on a 5 personnes qui viennent, parce que les Aston Martin anciennes, ça court par les rues, je serais très, très content. Mais on a eu 10 voitures qui sont venues. Et donc, il y a 2 personnes qui viennent me voir en disant, enfin, quelqu'un qui fait quelque chose, mais depuis le temps qu'on attend que quelqu'un bouge, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, on peut vous aider.
Mais après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous
organisez
des événements,
vous vous retrouvez ? Et donc, on a commencé à mettre des annonces, etc. Et les gens, on commence à dire, oui, ça nous intéresse, on va venir. Donc, on a pris des noms, des adresses. Eux, ils connaissaient du monde, c'est de bouche à oreille. Et finalement, de plus en plus de monde. Mais ce qu'il faut savoir dans les clubs de voitures, on ne prend pas que les voitures anciennes. Parce que si on disait on prend que les voitures avant 1990 ou en 1980...
Parce que pour vous, c'est la moitié de voitures modernes dans votre club.
Voilà, parce que si je dis, c'est l'avenir du club. ces voitures modernes, un jour, ça sera des voitures anciennes.
Ah oui. Mais en revanche,
donc,
pour faire
les jeunes peuvent acheter ça, c'est moins cher que les anciennes, et donc c'est plus abordable, et ils viennent rejoindre le club. Et c'est l'avenir du club. Donc j'accueille tout le monde.
À condition qu'on soit propriétaire d'une Aston Martin, on est d'accord.
Oui.
On peut être propriétaire d'une Aston.
C'est ça. Mais ça ne va pas dire que vous êtes obligé de rouler dans une DB5 de James Bond pour venir nous retrouver. Absolument pas.
Compris.
Vous pouvez venir dans une voiture moderne, une voiture qui ne vaut pas très cher.
Vous êtes
autant
Jaguar,
le bienvenu.
Ça leur fera plaisir.
Et je ne veux pas, et c'est très important à dire aussi, je ne veux pas qu'il y ait une espèce de snobisme dans ce club, en disant oui, je roule en Aston, toi tu roules quand je ne plus en Peugeot, donc je ne te parle pas. Non, on est tous à égalité, on passe un bon moment ensemble, on sort, on fait des sorties plusieurs fois par an, et c'est pour discuter voiture, pour passer un bon moment.
Entre passionnés. Et ben voilà, donc c'est pour tout le monde, les belles autos. Et c'est ce week-end à Chantilly, art et élégance. Vous pourrez aller découvrir les belles autos et discuter avec ces messieurs qui vous feront partager leur passion. Et ces demoiselles aussi. Philippe Cantor, merci beaucoup à vous.
Merci
la vente Bonhams, donc ce week-end à Chantilly. Philippe Cantor, président de l'Aston Martin Honors Club France, merci à vous. Et Bruno Van Diez, merci à vous également. Merci à tous les
bonne chance et bonsoir.
Sur la coupe à la fin.
Allez, restez avec nous. Good Luck Paris, bah, ça continue, bien sûr. On n'oublie pas nos bonnes habitudes. Dans une seconde, c'est... allez, tiens, on va voyager avec Capucine Grabi.
Good Luck Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Mais tout d'abord, le livre de la semaine, et je vais commencer avec un livre qui va peut-être vous faire sourire, Emmanuel, ça s'appelle « Le patrimoine, une passion des hommes, voyage au cœur de nos régions ». Je suis d'accord, c'est pas le plus joli livre que je vous ai présenté.
Non, mais
c'est pas un joli...
Oui, pas mal.
Voilà. Sauf que c'est des éditions Autrement et la Fondation du patrimoine. Et donc, l'idée, quelle est-elle ? Pour ces 20 ans, c'est un voyage au cœur des régions. Il y a près de 100 lieux à découvrir à travers la France qui mettent en valeur le patrimoine sur lequel se penche la Fondation du patrimoine, je vous rappelle, qui est mécène et qui fait appel aussi à votre bon cœur, messieurs, dames. Et ce qui est génial, c'est que bien sûr, on va retrouver des lieux qu'on connaît un peu, la tapisserie d'Aubusson, etc. Mais aussi des tout petits lieux, parfois c'est une chapelle dans un bled complètement paumé. Parfois, là j'ai découvert par exemple un petit chalet à Molines en Queyras, oui. Un moulin dans les Deux-Sèvres, les vergers de l'île de Porquerolles par exemple, autant de lieux. Et aussi, on découvre leur histoire et les artisans qui ont permis la réhabilitation, la rénovation, la renaissance de ces lieux. Voilà, il n'y en a qu'une centaine de jolies photos. C'est juste, voilà, c'est encore un peu les vacances. Donc, allez vous balader et allez chercher tous ces instants du patrimoine français grâce à la Fondation du patrimoine.
C'est conçu comme un livre de bibliothèque, hein, enfin un livre de table basse, mais c'est presque un guide.
Ben oui.
Parce qu'effectivement, c'est construit à Haute-Loire, le Puy-en-Velay,
voilà, vous pouvez suivre un petit...
Il y a aussi, on s'aperçoit que le patrimoine, c'est pas un patrimoine forcément qui s'inscrit dans l'histoire de France écrite en plein et délié, hein. C'est un patrimoine beaucoup plus friche industrielle. Là, je vois la chapellerie de la Chazelle-sur-Lyon. On est déjà dans le 19e, la révolution industrielle.
Mais il y a de tout.
La cinémathèque des pays de Savoie et de l'Ain, Verrier-du-Lac. Non, c'est il est très
rempli
sur le fond. Effectivement, l'objet, il sent un peu le patrimoine, mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
Des fois, le fond peut l'emporter quand même sur la forme.
La Fondation du
comme
patrimoine.
Comme la boîte des romans de la rentrée ont paru ici.
La Fondation du patrimoine, depuis qu'elle existe, elle a accompagné 25 000 projets, quand même, pour vous dire. Donc, ces lieux existent aussi encore aujourd'hui grâce à elle. Voilà. C'était le petit clin d'œil. Et pour continuer à voyager, eh bien, c'est Good Luck d'ici et d'ailleurs.
Good Luck Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Salut Emmanuel.
De retour de vacances.
Toute dorée.
Écoutez,
oui, vous êtes bien
baladés. Vos épaules partent pour vous.
En tout cas, grâce à votre magazine de conciergerie de voyage mymoonspots.com, vous nous faites découvrir de nouveaux endroits.
J'ai été obligée d'en découvrir cet été.
Bah, c'est
vous,
ça, vous n'avez fait que
en fait.
Ça, vous,
bah,
c'est
oui.
Ça. D'ailleurs, on vous verra peut-être un peu moins cette année parce que vous allez vous balader là aussi. En tout cas, là, vous êtes allé dans les îles anglo-normandes.
Ouais.
Et alors, bon, moi, je pensais...
Moi, je voulais lui faire une devinette, mais
ah, pardon.
Vous avez vendu la mèche.
Ah non,
alors,
voilà,
je vais essayer de lui faire.
Jersey, Guernesey, Chaussée.
Eh ben non,
non, non. Eh ben voilà. Alors, il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Les plus célèbres font Jersey, Guernesey, Chausset. Et les deux autres, vous allez
les
donner.
Eh ben, moi non plus.
Edic, non, c'est pas une île anglaise.
Edic, c'est à côté de Belle-Île.
Ouais, c'est un peu plus au nord.
Joker.
Ouais, j'en sais rien, ou plus au sud.
Il y a Herm et Sark, qui sont juste à côté.
Ah oui.
Et il y en a une dernière.
Ah, ben celle-là, je la connais pas.
Qui est beaucoup plus au nord, donc en face de Cherbourg, quasiment.
Ah oui.
Donc très proche de l'Angleterre. mais qui est vraiment, enfin, on peut dire que les autres, elles sont finalement assez ramassées. Ouais, celle-là, elle est complètement isolée en face de Cherbourg. Et elle a toujours travaillé un peu mon imaginaire. Elle s'appelle Origny. Me demandez pas pourquoi. J'ai toujours eu envie d'aller à Origny. Il fallait aller à Origny.
En plus, c'est celle qui a le nom, la sonance la plus française.
La plus Origny. Francophone. Ouais. Ouais. Alors, en fait, on dit Origny en français, on dit Alderney en anglais.
Ah. Ouais. D'accord. Voilà. Elle a une double nationalité.
Voilà. Et alors, quand vous allez sur place, est-ce que c'est à la hauteur de vos rêves?
Alors,
c'est pas mal ça quand on perce la bulle de ses rêves.
Oui.
Est-ce que c'est à la hauteur? Elle a raison.
Est-ce que c'est à la hauteur? C'est une très bonne question. Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une espèce de mélange, de melting pot entre la France et l'Angleterre. Donc en fait, c'est une île qui a été un peu baladée entre la France et l'Angleterre à cause de toutes les guerres. Ça remonte à Guillaume le Conquérant, le roi Harold, la bataille de Hastings, et qui aujourd'hui est un doux mélange entre justement cette tradition française et en même temps, on se sent complètement. On est à 15 kilomètres, vraiment, c'est un bout de terre à 15 kilomètres de la France, mais on se sent complètement en Angleterre avec ses peuples pleins à craquer.
C'est grand
ou pas? Le fish and chips. Les scones au beurre, etc. Il y a un dépaysement total, et pour des stages d'anglais pour vos enfants, je vous dis, moi c'est parfait, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de l'Irlande.
Et c'est grand ou pas?
Ah, c'est grand.
On utilise la voiture?
Non, alors nous, on a tout fait en vélo, il y a des voitures, mais je dirais que c'est un petit Belle-Île. Non, c'est beaucoup plus petit que Belle-Île.
Ah oui, donc c'est pas grand.
Ça doit être divisé par, Belle-Île divisé par deux. C'est d'accord. Une île qui est assez intéressante parce que, donc il y a eu toute cette, ce passé, anglo-normand et donc franco-anglais. C'est aussi une île de pirates, donc qui travaille un peu votre imaginaire romanesque, folklorique presque, avec un pirate qui était français, qui s'appelait Le Mesurier, et qui lui, du coup, a fait la fortune de l'île il y a 200 ans en allant dévaliser tous les bateaux qui croisaient aux alentours. Et aujourd'hui, c'est une île qui est restée très riche et qui ça date de cette époque.
Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? Du shopping?
Alors non, pas du tout, pas de shopping.
Ah
là, pour shopping, c'est plutôt Guernesey. Donc on en parlera un peu après. Non, c'est vraiment une île qui est très authentique, très sauvage. On vous baladez à vélo, il y a des criques magnifiques, il y a la chaleur du Gulf Stream. Moi, je me suis pas baignée. 15 juillet, je me suis pas baignée, mais des plages magnifiques. Vous observez des batteries des années 1800 qui ont été construites par les Anglais. Voilà,
la faune, la flore.
Bonne question. Il y a effectivement beaucoup de footbassants. Il y a 12 000 footbassants qui. Wow. Donc c'est quand même 2% de la population mondiale qui est juste au large sur un rocher qui s'appelle le rocher des Étais. Et il y a énormément d'oiseaux. Il y a des animaux en tout genre, dont des hedgehogs. Alors là, deuxième devinette. Le hedgehog, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est donc le hérisson en anglais. Et donc, il a absolument fallu qu'on fasse cette balade à la recherche des hérissons. Ça va vous faire rire, mais en fait, il y a un couple d'habitants d'Alderney, donc d'Origny, qui est parti sur le continent anglais il y a à peu près 40 ou 50 ans et qui a eu l'idée d'acheter un couple de hérissons chez Harrods. Vous savez que chez Harrods, on peut acheter n'importe quoi, des girafes, des éléphants, mais aussi des hérissons blonds. Ils ont vraisemblablement ramené ces hérissons blonds à Alderney.
Et depuis,
aujourd'hui, il y a la plus grosse colonie de hérissons blonds d'Europe à Alderney, parce qu'il n'y a pas de prédateurs.
Donc
il
y en a partout.
Il y en a partout et vous pouvez aller les retrouver. Nous, on a fait une chasse aux hérissons sur le terrain de golf à la nuit tombée.
Voilà, Capucine, très rapidement pour terminer, on dort où?
Alors, on dort évidemment dans un pub. Moi, je vous conseille d'aller au Adventurer Rest qui vient d'ouvrir, qui est dans la Main Street, et qui est imbattable en termes de prix. Et c'est vraiment l'ambiance britannique comme on l'aime. La petite difficulté, c'est quand même que c'est tout frais, mais c'est certainement pour ça qu'elle est peu connue. C'est extrêmement compliqué d'y aller.
Oui, faut vraiment regarder l'heure des marées, etc.
Vous avez un bateau qui est direct, mais à certains moments de l'année, et qui part de Dielette ou de Granville.
C'est ça le luxe, ça se mérite. Eh ben, ils se renseigneront.
Ou alors on passe par Guernesey. On peut aussi y aller en avion. Pour arriver par les airs.
Vous savez quoi? On vient de rentrer de vacances. Moi, je trouve qu'on y est presque grâce à vous déjà. Ça va bientôt être le temps des week-ends. D'ici un mois et demi, on a
organiser.
Le temps de s'y préparer. On devrait pouvoir trouver le chemin pour.
Mais juste, je voudrais terminer là-dessus. Nous, on a été obligés de passer par Guernesey pour y aller parce qu'il n'y avait pas de bateau. C'est long et c'est compliqué, mais Guernesey, c'est un peu bruyant, c'est un peu bling.
Oui,
c'est un peu
on s'en fiche de Guernesey. Donc, on ira à Origny et on passe par manouspots.com. Merci beaucoup, Capucine Grabi. Vous restez encore quelques instants avec nous. Très rapidement. Rapidement, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Allez, top 30 secondes, Emmanuel, mercato de la rentrée.
Le mercato des chefs de la rentrée, on l'a appris la semaine dernière. C'est un chef qui orchestrait jusqu'à présent, qui avait orchestré pendant des années le 3 étoiles de Gordon Ramsay à Londres, puis son 2 étoiles français, c'est-à-dire du côté de Versailles. Il s'appelle Simone Zanoni, il a un talent monstre. C'est vrai qu'il était dans l'ombre du maître de Gordon Ramsay, et quelle ombre. Elle est portée parfois celle-ci.
Là,
il prend son envol et il arrive dans un palace, il arrive au George V pour prendre la tête du deuxième restaurant du Jardin qui s'appelle le Georges et qui a consonance transalpine. Alors dans un premier temps, il va pas trop bousculer la carte, mais rapidement ça va changer. Mais il y a un plat signature qui est déjà le sien, qui était celui qu'il avait appris de sa grand-mère et pourtant qui est un plat très contemporain, tarte tatin d'oignon, glace, et c'est là où vient l'Italie, au parmesan.
Waouh.
Installation super. Dans les murs le 11 septembre. Et franchement, à la fin de l'année, le Georges V, puisque je rappelle mes ordres, on a trois tables, je pense qu'ils vont taper les 6 étoiles avec 3 tables.
Allez, ce week-end, ça bouge dans Paris, la Paris Design Week, on parlait tout à l'heure, c'était le thème de notre émission Chantilly, art et élégance, mais il y a aussi dans Paris, la Paris Design Week, et en même temps, les rives de la beauté, pour ceux qui sont plutôt bien-être, parfum, beauté, etc. C'est donc une vingtaine de lieux, de boutiques, d'événements, comme ceux que nous adorons, Francis Curdjian, Atelier Cologne, Liquids, Aesop, Sablé Maçon, etc., etc., qui vous ouvrent leurs portes, qui vous proposent quelque chose de différent, et un petit parcours, ça s'appelle les de la beauté. Je crois qu'on a plus le temps pour la suite, Emmanuel.
C'est pas grave, je garde pour la semaine prochaine. C'est une adresse éphémère et assez croustillante.
Eh ben voilà, très bien. Comme
quel
ça, on va faire monter un petit peu.
Suivez-nous, ça y est là.
On va faire monter un petit peu le buzz. Et moi, je vous parlerai de la nouvelle collection d'un très grand joaillier de la place Vendôme. Et voilà, on vous en parlera donc la semaine prochaine. Rendez-vous même heure, même endroit. Merci infiniment, Capucine. Merci, Emmanuel. Et sinon, on se retrouve pour Good Luxe Paris en semaine. C'est désormais de 14 à 15 heures du lundi au vendredi. À bientôt.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.